Bienvenue au Balado Urbania.
Bonjour, mon nom est Billy F et je suis chargé de contenu chez Urbania. Bienvenue au podcast. Cette année, Urbania célèbre ses 20 ans, mais en 2003, il y a aussi une autre compagnie très importante pour le Québec qui a été fondée et on accueille son fondateur, Steve Jolin, président de 7e Ciel. Comment ça va?
Ça va bien, merci.
Comment est-ce qu'on se sent après 20 ans de label?
20 ans, tu te dis, ouais, ça fait longtemps. Combien de temps là-dedans, là, tu sais? Mais on est content d'où est-ce qu'on est rendu, surtout, je te dirais. Puis, tu sais, des années anniversaires comme ça, ça nous permet justement de s'arrêter, tu sais, puis de dire, bon, ben, hey, ça fait déjà 20 ans que je fais ça. On a tendance toujours à voir, à projeter, à voir ce qui se passe, ce qui s'en vient. Mais c'est le fun aussi, parce qu'une année anniversaire, ça te permet de t'arrêter, de regarder un peu en arrière, de dire, ah ben écoute, on a fait des belles affaires quand même en 20 ans. Fait que c'est un petit moment de recueil, je te dirais, puis de se dire, bon ben, on l'a fait, c'est cool.
Mm-hmm. Fait que là, aujourd'hui, on va parler, bien entendu, des 20 ans, du concert anniversaire que vous organisez la semaine prochaine au Centre Bell, de certains de tes artistes forts, mais moi, je veux essayer de comprendre un peu plus pourquoi 7e Ciel, d'où est-ce que ça vient. Fait que, si tu permets, on va vraiment retourner un peu à tes origines. Donc, toi, tu viens de Rouyn-Noranda. Par contre, si je me trompe pas, c'est à Thunder Bay que tu as vraiment découvert l'hip-hop.
Ouais, tu as des bonnes sources. T'es un bon recherchiste. Ouais, exact. Ben, en fait, moi, j'ai grandi à Rouyn avec ma mère. Puis, je suis parti à l'âge de 10 ans vivre avec mon père quelques années. Puis, mon père était vivre à Thunder Bay où il travaillait, lui, dans le bois là-bas. Puis, ben, c'est un milieu anglophone. Nous, on était dans un quartier où il y avait quand même quelques francophones. Puis, il y avait un gars qui était... Moi, j'avais 12 ans à cette époque-là. Il y avait un gars qui mesurait 6 pieds 6, qui avait 16 ans. Il se promenait toujours avec un air très chill, très décontracté, avec son ballon de basket, puis sa radio. Puis, je trouvais qu'il avait tellement l'air cool, tu sais, puis relax. Un moment donné, j'y adresse la parole, puis il marchait toujours dans le quartier. Puis je me rends compte que c'est un francophone, tu sais. Puis, ben, ça commence comme ça, puis là, je me mets un peu à jaser un peu avec, tu sais. Puis il dit, hey, c'est une année, il nous invite à venir jouer au basket dans le petit parc où est-ce qu'il allait toujours. Fait que je m'en vais là-bas. Fait que je me lève un petit peu d'amitié. Mais c'est d'amitié, j'avais 12 ans, il en avait 16, là, tu sais. Fait que c'était quasiment plus un grand frère, mais c'est un gars qui m'aimait bien, puis qui... Moi, j'ai commencé à m'intéresser au basket à cause de lui. Puis c'est, quand je suis arrivé, il m'a amené un peu dans sa chambre, son univers. Je suis rentré là-dedans, les murs, c'était tapissé, mon gars, de posters de rap, tu sais. Puis Public Enemy, KRS-One, tu sais, tous les gars, les Maestro Fresh West à l'époque, tu sais. Donc c'était vraiment... J'étais arrivé là, j'étais OK, je suis dans un univers que je connais pas du tout. Puis il commençait à me faire écouter de la musique. Puis il me donnait un tape où il y avait justement, c'était un tape mixé où il avait mis possiblement tous les tracks que lui écoutait. T'sais. Écoute, j'ai pogné la piqûre, j'ai écouté le tape là, sans arrêt. Puis à partir de ce moment-là, on dirait que ça y est, là, mm-hmm. Le mal était fait, là, j'étais contaminé.
Avant ça, c'était quoi ton introduction au rap? Est-ce que c'était... Déjà, est-ce que tu peux nous situer à peu près, on était en quelle année à ce moment-là?
89. Puis c'était vraiment du rap anglo qu'il y avait. Mm-hmm. Moi, j'allais dans une école francophone. Puis il y avait un petit concours amateur à l'école. Puis moi puis un de mes chums, on avait formé un petit groupe, t'sais. Puis on s'appelait Cool DS. Lui, c'était Danny, moi, c'est Steve, donc c'était Cool DS. Puis on avait fait un... On avait créé un rap.
En français?
En français. Ouais. Puis, en 89, il ne devait pas avoir beaucoup de monde qui rappait en français, là. Puis on l'a enregistré grâce à l'aide de mon prof de musique, t'sais. Une année, on avait resté à l'école après... Puis lui, il avait un petit synthé, puis il avait fait un genre de petit beat, là, tu sais. On commençait sur un air de Frère Jacques au début. Puis là, c'était plein de manées. Le beat commençait, puis là, tu sais, « Hey, DJ, drop that beat, là! » Puis on commençait à rapper en français. Mais écoute, c'était... Puis on a gagné le concours, évidemment. Mais, tu sais, ça a été vraiment les débuts, là, tu sais. Puis j'avais ça sur tape, mais c'est vraiment un archive que j'ai perdu qui me fait vraiment de la peine parce que ça a été le premier, la première track qu'on avait faite pour vrai. Là,
mm-hmm. Est-ce que tu te rappelles du premier CD de rap que tu as acheté avec ton propre argent?
Moi, c'est des cassettes, beaucoup, ouais, que je te dirais. Là. J'ai commencé à acheter des cassettes. Écoute, le premier, je pense que c'était un tape de Public Enemy. Mais tu sais, il faut savoir que nous autres, quand on s'est mis à acheter des tapes, ben on faisait des commandes spéciales, tu sais, parce que... Mm-hmm.
Parce qu'on vendait pas ça au magasin de disques à Rouen,
j'imagine. Là, là-bas, c'était un petit disquaire indépendant.
C'est qui le premier rappeur que t'entends en français? Ou, tu sais, c'est qui te donne l'idée de te dire « Ah oh, ouais, c'est vrai, je pourrais aussi rapper en français? »
La première vraie référence, la première personne que j'ai écouté vraiment, c'était M. Solar. Avec le premier album, là, tu sais, qui sème le vent, récolte le tempo. Ça, c'était vraiment le premier album que j'ai saigné et que j'ai dit, OK, ça, c'est du génie. Qui nous a aussi permis de croire que ça se pouvait, tu sais. Mm-hmm. Puis après ça, ben, y en a eu plein, là, tu sais. Là, je suis tombé dans toutes les NTM, les IM, etc., ouais, là, tu sais.
Puis combien de temps avant que tu rencontres une autre personne au Québec qui faisait aussi du rap en français?
J'ai joué au basket quand même collégial aussi. Donc, tu sais, quand j'allais à Montréal puis qu'on partait, ben c'est là que souvent j'essayais de faire des contacts, mm-hmm, puis de dire, hey, tu sais, rentrer dans certains cercles. Puis des fois, c'était comme, ah, moi, je connais quelqu'un qui fait des beats. Ben, OK, moi, c'est ça que j'avais pas, tu sais. Concours de circonstances, mon cousin de Rouen avec qui j'avais traîné dans mon cercle de rap, tu sais. Lui s'en va aux études à Québec. Puis on avait une amie commune qui venait de Rouen, qui sortait avec un beatmaker, le beatmaker à l'époque de Good Samaritans, puis des Ambassadeurs, un groupe de Québec. Puis lui, mon cousin, il a fait entendre des démos, puis il a dit « OK, ben il y a de quoi faire, mm-hmm, dis-lui qu'il vienne, puis moi je vais travailler avec. » À chaque fin de semaine, je partais à Québec, puis j'allais enregistrer. On faisait, je revenais avec 2-3 tracks à chaque fin de semaine. Puis c'est comme ça qu'on a monté le premier, mm-hmm, album.
Puis là, rendu là, on est quoi, mi-90?
Fin 90? Là, on est rendu début 2000, quand, okay, on a commencé à Québec, je te dirais. Mm-hmm.
Fait qu'il y a déjà eu les Domatic, les Mosaïens. Ouais, le rap keb avait, exact, progressé un
que
peu quand même.
J'ai, hein, que j'ai rencontré, là, tu sais. Uh-huh. Je me souviens, Domatic était venu à Rouen. Ben, eux, ils faisaient des shows dans les grosses salles traditionnelles, là, mm-hmm, de diffusion traditionnelle. Puis moi, j'allais là comme spectateur, là, tu sais. Même si j'avais presque l'âge des gars, tu sais, j'allais là plus comme spectateur, puis dans l'espoir de leur remettre un tape, tu sais, de ce que, mm-hmm, je faisais. Puis quand t'es jeune, tu te dis, ben, man, eux, ils peuvent m'aider, tu sais. C'est dans les premiers, ils peuvent m'aider. Fait que, tu sais, c'était déjà pour te démontrer que j'avais cette fougue-là de dire, hey, je vais faire ma place. Je leur remettais, tu sais, en main propre. Et qu'à chaque fois, je voyais quelqu'un, tu sais, que je croisais, SP, whatever, qui commençait à avoir du succès, j'allais voir, je me présentais, salut, je suis un rappeur de Rouen, écoute ça. Tu sais. Vraiment, début 2000, j'ai commencé à faire mes trucs avec les ambassadeurs. Ça m'a amené à faire le concours Hip Hop Forever en 2002.
En 2003... T'enregistres l'album ou t'essayes de le choper à des labels avant de commencer à enregistrer?
L'album a été enregistré. T'sais. Moi, j'avais commencé à l'enregistrer tout dans la période là, du concours, tout ça, j'avais commencé à faire des chansons. T'sais. Puis, je te dirais, ça, faut se dire que de 99 à 2003, moi, j'étais aux études à Sherbrooke. Mm-hmm. Fait que tout là, ce développement-là de contact, ça part, je te dirais. Fait que moi, en 2000, fin 2002, j'ai un album là, qui est prêt, tu sais. Puis là, en début 2003, je finis mon bac. Fait que moi, mon but, c'est de sortir mon album avant l'été. J'envoyais l'album, tu sais, presque final à plein de maisons de disques. Je regardais derrière les CD, puis j'ai dit, OK, ben eux, c'est une grosse maison de disques, ils ont sorti ça.
Au Québec ou à l'international?
Québec.
Ou...
Okay. Québec. Ben, c'était
fait que c'était quoi tes options? Parce qu'il n'y avait pas encore de label dédié au rap. Rap.
Non, c'est ça. T'sais, mais tu avais justement les disques Tox qui avaient fait, fait Domatic. Tu avais BMG qui avait fait Mosaïen. Il y avait quand même des gens avec qui je me disais, bon, ça pourrait être cool, tu sais, de travailler. Faut savoir, tu sais, qu'il y avait eu un moment très fort, justement, fin 90, où Dommatic avait eu une percée commerciale fulgurante puis qui avait ramené beaucoup de ventes de CD. Mais après ça, il y avait eu... Donc, ça, c'est là que toutes les grosses maisons de disques voulaient avoir leur rapper. Mm-hmm. Puis tout le monde voulait goûter un peu à la recette Dommatic, mais ça s'est pas produit comme ça, tu sais. Donc, ça a beaucoup refroidi les grosses maisons de disques, puis les gens sont juste remis, laissés le rap de côté. Puis il y a eu des petites maisons de disques ici et là qui ont commencé à se former. Tu sais, je pense à l'époque, il y avait High Life Music, il y avait Hero Prod. On était dans le mouvement que là, il commençait à avoir des petites maisons de disques. Mais tu sais, moi, je me disais, je ne vais pas nécessairement signer avec des gars, je ne vais pas signer avec des gars de mon âge. Tu sais, c'était pas tant ça mon truc parce que je me disais, bon, ils n'ont pas plus d'expérience que moi. Fait que finalement, ben écoute, après toutes les refus, j'ai décidé de créer ma propre compagnie pour sortir mon premier album. Là, le défi, c'était de trouver un deal de distribution. Parce que à l'époque, c'était ça. Là, t'étais pas, c'est pas comme les plateformes numériques aujourd'hui. Ah, c'est ça,
parce que là, les gens qui regardent ça en ce moment, ils peuvent pas s'imaginer un monde où la musique ne coûte pas 10$ par mois, exact, pour avoir accès à tout. Fallait acheter des CD... 10$ l'achète minimum. Ouais, puis toi, si ton CD n'était pas physiquement dans le magasin, personne n'entendait ta musique.
Et voilà. Et voilà. Puis ça, c'était comme un gros filtre. C'était une grosse barrière à l'entrée pour tout le monde. Mm-hmm. Donc, tu sais, souvent, quand tu voulais avoir un deal, un record deal, c'était pour t'assurer d'avoir un album qui est commercialisé. Ce qui n'était pas facile à l'époque. Donc, tu sais, là... J'avais eu les refus des maisons de 10, puis là, j'avais approché tous les gros distributeurs, mais les gros distributeurs non plus, ils signaient pas n'importe quoi. Bref, j'ai signé avec le plus petit distributeur qui existait à l'époque, puis ça s'appelait Local Distribution. Ça a été un apprentissage, le premier album, parce que justement, juste toutes les démarches pour pouvoir le mettre en marché, puis apprendre tout ce que ça prenait, j'ai tout fait. Là. J'étais un one-man team. Là,
ben ça, y avait-tu quelqu'un un peu pour t'épauler? Y avait-tu quelqu'un que tu pouvais appeler pour être comme « je dois faire ça, je suis pas trop sûr comment procéder? »
Non, mais j'ai appris beaucoup par moi-même. Je veux dire, après, t'as le distributeur qui dit ben, « faut que tu m'amènes ça, t'as besoin de ça, t'as besoin de ça. » Puis là, après ça, je posais un peu des questions au distributeur, qu'est-ce que j'avais de besoin, mais tu sais, après ça, j'ai formé l'équipe à partir de mon entourage, puis tu sais, un chum qui fait du graphisme, puis un chum fait des photos, puis OK, toi tu viens ici, on enregistre à telle place, je vais faire le mix là, on fait le mastering là, tu sais, puis... Mm-hmm. Puis ça a commencé comme ça. Après,
fait
ça,
continuer c'est... avec ton esprit rassembleur, ouais, ça avait du sens pour
j'essaie...
toi.
Ouais, c'est ça. J'essayais de... Puis après ça, je me disais, bon, une fois que c'est sorti, j'avais pas beaucoup de moyens pour faire de la grosse promo. Fait que c'est moi qui appelais les journalistes qui pour avoir des critiques, tu sais. Puis
je me préparais. Pour tes CVHS à Musique
Plus.
Ouais,
ben exactement. C'était vrai de ça. Puis je faisais mes suivis. « Hey, t'as-tu reçu mon vidéo clip? » Puis que... Fait que tu sais, c'est une job quand tu pars de rien qui est pas évidente, mais qui témoigne quand même que de encore une fois de l'intérêt puis la volonté que j'avais, la détermination que j'avais de faire ma place dans le milieu. Tu sais. Je me souviens juste les shows. Évidemment, les gens ne m'appelaient pas en tant que tête d'affiche pour aller faire des shows, mais tu sais, je regardais un petit peu ce qui se passe. Là, on a les débuts d'Internet, puis je regardais, OK, il y a un show à Rivière-du-Loup, il y a un autre show là, tu sais, puis des petits shows, puis j'essayais de me greffer. J'appelais les promoteurs, j'essayais de trouver c'était qui, tu sais. Puis souvent, je réussissais à me faufiler, faire un petit 15-20 minutes dans le show. Souvent, ils payaient rien ou ils disaient, ben, si tu viens, je vais te donner 200$. Hey, moi, je partais droit dans Randa, tu sais, tu comprends? Fait que ça me coûtait de l'argent pour aller me produire. Mais en même temps, il fallait que je me fasse voir, tu sais. Fait que ça faisait partie de... Je voyais ça comme de la promotion.
2003, c'est quand même une grosse année pour les peuples, on va se le dire, tu sais, que ce soit l'explosion de 50 Cent et de G-Unit, il y a 8 Mile qui sort, tu sais, j'ai l'impression que ça a été vraiment une année charnière en termes de crédibilisation du rap, si je me trompe pas. Est-ce que tu avais un peu ce sentiment-là aussi?
Ouais, tu sais, après... Je m'étais pas tant arrêté à ça. Je pense que je suis tombé un peu dans cette année-là parce que c'était mon album était prêt. Mais effectivement, il y a plein de choses qui se passaient. Donc, ça faisait faisait comme en sorte que on voulait participer au mouvement, tu sais. Donc, c'était un peu ça, tu sais. Puis, c'est ça, tu sais. Moi, ça a été le début d'une longue série de spectacles que je produisais moi-même et dont j'étais promoteur, tu sais. Fait que ça m'a permis d'établir un réseau de contacts avec tous les artistes hip-hop québécois du moment, tu sais, les plus hot. Puis là, c'est là qu'on commence à faire des échanges, tu sais. Regarde, je t'invite ici, mais toi, tu m'invites sur un de tes shows à quelque part, tu sais. Fait que ça a fait en sorte qu'on réussissait toujours à avoir des beaux shows un peu partout, mm-hmm. dans un réseau qui était tout à fait parallèle à celui qu'on connaît dans l'industrie musicale, tu sais. Maintenant, c'est très intégré, là, tu sais, on le sait, là, plusieurs de nos artistes rap, aujourd'hui, c'est les têtes d'affiche de l'industrie musicale qu'on connaît, mais à l'époque, c'était deux mondes complètement parallèles. C'est du monde qui ça se parlait pas. Là,
mm-hmm. On va skipper un peu dans l'histoire, mais est-ce que je me trompe si je dis que pendant les 10 premières années du label, tu as essayé de garder ça le plus tight possible pour sortir les meilleurs releases possibles?
Absolument.
Dans le sens où, tu sais, si je me trompe pas, pendant les 10 premières années, c'était juste toi. Il y avait Corias que tu as signé pas très longtemps après. Samian. C'était pas mal juste.
Dramatique.
Puis dramatique. Ouais. Ouais.
Tu sais, j'avais pas une grosse équipe à part deux, trois personnes avec où on déléguait des tâches. Donc, j'ai décidé de juste sortir moins de stock. Puis, comme je t'ai dit, j'ai jamais commencé mon label en me disant je vais faire un label, puis dans 20 ans, on va être un des plus gros labels. Ça n'a jamais été... Ça s'est fait naturellement, toujours, mm-hmm. tu sais. Donc, ça a été... Samian, je l'ai rencontré via les gars de Loco Locas, puis il me parlait de lui, puis on s'est retrouvés sur le même show, puis j'ai vu ce qu'il faisait, puis je trouvais que sa proposition était unique, puis je me disais, hey, man, je veux participer à ça, puis on était prendre une bière ensemble, je disais, regarde, man, si tu veux, on travaille ensemble, puis on sort, ben oui, man, let's go, tu sais. Il n'y avait pas de contact non plus, donc, tu sais, je l'entourais un peu de mes contacts, puis tu sais, ça s'est fait naturellement comme ça. Corias, même chose. On était sur les forums hip-hop franco HHQC, puis lui, c'était déjà une vedette du battle, tu sais, Internet, si on veut. Puis ses chansons, il y avait quelques chansons qui avaient release sur Internet. Puis, tu sais, Corias, je le dis toujours, c'est le premier artiste qui a eu un vrai buzz musical viral chez les jeunes sur Internet. T'sais. Il y avait des tunes qui se promenaient un peu partout. Il y avait deux, trois tunes qui avaient sorti, puis ça se promenait, puis ça se téléchargeait. Donc, tu sais, lui était venu à un show, puis je l'ai invité. J'ai dit, regarde, moi, je suis dans pour travailler avec toi. Puis ça s'est toujours fait un petit peu comme ça. Puis c'était un peu aussi l'époque où on commençait à se professionnaliser, si on veut, je commençais à me professionnaliser en tant que comme d'affaires, tu sais, aussi. Le fait d'avoir réussi à me positionner avec le Beat Atibi en tant qu'artiste, ça venait crédibiliser un petit peu la place que j'avais et ça faisait en sorte que, bon, justement, un gars comme Samian ou Corias ou même Dramatique, il dit « Hey, OK, il commence à avoir quelque chose qui se passe, un label. » Puis Corias, ça a bien marché. Samian, ça a super bien marché. Donc là, réussite après réussite, tu sais, puis c'était des petites réussites, là. C'était pas c'était pas des succès où on décollait avec 50 000 albums vendus, là. C'était pas ça, mais c'était des succès constants, des petites victoires qui s'accumulaient. On commençait à faire notre place, les gens commençaient à parler de nous, tu sais, on faisait des choses qui sortaient un petit peu... On était encore un peu underground, mais on avait du succès, tu sais. Puis l'arrivée de Dramatique aussi, ça a beaucoup crédibilisé le label, parce que là, t'avais un artiste respecté et crédible qui arrivait du groupe Mosaïen, qui venait signer avec 7e Ciel le label de Juan Randa.
Ça achetait du street.
Fait que là, ça devenait, tu sais, ça menait comme un peu qu'on avait Another J, Samian, Corias, puis là, Dramatique, c'était comme le stamp, le approval stamp de dire, OK, guys, tu sais, le hip-hop scene reconnaît le... Donc, fait que on était, comme tu dis, longtemps, juste nous quatre, à sortir, sortir les albums un après l'autre. C'était une sortie par année, des fois c'était deux sorties par année, mais comme je te dis, on n'avait pas d'équipe. Je faisais tout à l'époque. Là. Mais tu sais, ça a toujours été comme qualité avant quantité, avant un bon moment. Puis je me disais que c'était ça qu'il fallait faire. Mm-hmm. J'avais pas envie de devenir un gros label avec beaucoup de volume. C'était pas ça mon envie. Je veux me consacrer aux artistes qu'on a puis aux projets qu'on a. Puis je pense que ça a fait aussi la renommée du label pendant un certain moment. Après, bon, il y a eu d'autres signatures, puis ça a grossi, mais l'équipe a grossi aussi. On avait plus de moyens. Ben oui. On a eu des beaux succès qui a fait en sorte qu'on pouvait prendre plus de risques aussi.
Mm-hmm. On est bien avant un Loud, on est bien avant que beaucoup de rappeurs qui peuvent nous montrer qu'au Québec, ça peut devenir vraiment mainstream, si on veut, le rap. Fait que, tu sais, c'est quoi la plus grosse salle pour toi que vous pouviez jouer à l'époque?
Ben, tu sais, nous, on avait fait le Club Soda en 2007. Justement, j'avais monté un show, un rassemblement HHD que j'avais appelé ça. Puis c'était nice. Toutes les têtes d'affiche du moment, là, tu sais, c'était ça. C'est pas une si grosse salle, le Club Soda, aujourd'hui, mais c'est quand même un step.
Ben oui.
Je veux dire, c'est pas tout le monde qui le remplit encore aujourd'hui. Puis le fait de l'avoir fait en 2007, ça nous a comme dit « Hey, guys! » Puis on était, faut savoir qu'on était aussi dans un moment où le rap, tout le monde était chacun pour soi. C'était toutes des petites gaillards de clan, tu sais. Puis j'avais des bonnes relations avec tout le monde. Puis moi, je disais « Guys, on se fait un gros show. » Man, on met tout le monde, puis on mélange, puis on fait un feu roulant, tu sais, d'artistes. Très similaire à ce qu'on va faire au Centre Bell. Mais tu sais, c'était ça le concept. Puis écoute, ça a été un succès. On rêvait pas de faire un Centre Bell où on était pas là. T'sais. On voulait faire notre place. Puis y aller progressivement, mais t'sais, le Club Soda, c'était déjà considéré comme une grosse salle.
Il y a une couple d'années, je suis sur Facebook et je tombe sur une vidéo d'un kid en train de freestyler dans un parc à Montréal. Je pense que tu vois où je m'en vais. Puis je me dis, ce kid-là a beaucoup de talent. C'est très intéressant ce qu'il fait. Ça serait vraiment cool que quelqu'un signe. Et quelques mois plus tard, tu signes Fouki. Comment est-ce que ce projet-là est arrivé sur ta table? Comment est-ce que tu as découvert...
Ben, ça, c'est drôle parce que j'avais regardé un petit peu, ben, je suis un peu comme tout le monde, j'ai tombé sur le clip Gaillé, tu sais, que j'avais trouvé ça sympathique. Puis je trouvais ça quand même cool, tu sais, mais j'avais écouté, je trouvais ça cool, mais tu sais, j'ai pas cherché plus que ça. Puis mon fils qui jouait à PS, ça faisait une couple de fois qu'il écoutait son album. Je me disais, je vais aller dig un peu plus, tu sais, parce que je trouvais ça intéressant, son univers, tu sais. Puis j'ai commencé à écouter son album un peu non-stop. Puis j'ai vraiment pogné de quoi, tu sais. Je me disais, OK, man, il y a vraiment quelque chose de cool à faire. C'est un jeune qui rappe de façon très décomplexée, tu sais. Avec un sens de la mélodie très fort. Puis c'est ça, j'ai approché via Messenger, si je me trompe pas, là, tu sais. J'ai dit, OK, guys, Steve, 7e ciel, j'aime beaucoup ce que vous faites, puis j'aimerais ça qu'on puisse en parler, tu sais. Fait que ça a été ça, on s'est rencontrés une couple de jours, ou peut-être une semaine plus tard. Tu sais quoi, ça fait 2018, on est rendu 5 ans plus tard. Fouki, c'est une des plus grosses têtes d'affiche au Québec. Là.
Ah oui. Puis en terminant, après 20 ans, toi, comment est-ce que tu mesures le succès de ton label?
Je me mets des objectifs à chaque année. Tu sais, on essaie de toujours de faire mieux. Tu sais, mais je me dis, s'il y a une progression... puis on peut pas toujours monter comme ça, c'est impossible, c'est comme un artiste, t'sais. Une année on va se stabiliser, puis mais moi je trouve que le succès qu'on a, c'est d'avoir pu s'imposer, comme surtout avec le genre dans lequel on a développé, de s'imposer comme un des leaders de l'industrie musicale au Québec en ce moment, t'sais. Puis ça je pense que c'est un bon indicateur de succès. De pouvoir justement être parmi les entreprises, en vue, respectées, qui connaissent du succès, tant par nos présences en festival que nos présences, nos chiffres. Tu sais, mm-hmm. Les chiffres sont là pour démontrer que ça fonctionne. Donc, mais tu sais, je me mets pas d'attente démesurée. J'essaie de... Pas d'attente, pas de déception, mais on se fixe des objectifs quand même.
Steve, 20 ans au Centre Bell, 25 ans, est-ce qu'on se fait un I Am Gold sold out à Rouen?
On va commencer. Le Centre Bell, écoute, c'est déjà une grosse affaire, là, tu sais. Fait qu'on va y aller une année à la fois. Mais en tout cas, si vous avez la chance de venir, puis il reste vraiment pas beaucoup de billets, mais je pense que ça va être un show mémorable pour tous les vrais fans de rap. Ça va être un beau de rap québécois. Ça va être vraiment cool. Là.
Steve, merci beaucoup d'être venu. Congrats merci. Pour 20 ans. Très merci content que Urbania et 7e Ciel puissent fêter leurs 20 ans
ensemble.
La même année.
Ben oui, exact.
C'était Steve Jolin. Mon nom est Billy Ev. Je suis chargé de contenu chez Urbania. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous au balado Urbania. À la semaine prochaine.
C'était un balado Urbania. Abonnez-vous donc.